Bang Radio.
Bienvenue sur
Bang Radio.
La radio de Charcot.
Radio de Charcot.
Bang Radio.
La radio de Charcot.
Bang Radio.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre première émission Web Radio, animée par la 4e A, qui a pour thème la solidarité. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Hendricks, proviseure de notre établissement, qui partagera avec nous sa vision sur ce thème. Mais pour commencer, nous allons traiter de la problématique de la pauvreté au Maroc. Puis nous ferons un détour par notre ville, El Jadida, en parlant de la mendicité. Nous parlerons de la solidarité, puis nous évoquerons les événements qui ont jalonné ce début d'année, comme l'exposition de Jean-Baptiste Charcot. Nous écouterons l'interview de l'astronome exploratrice Mariam Chedid. Et pour finir, Ali nous présentera quelques proverbes qu'il a choisis pour une petite touche humoristique.
Attends, mais c'est quoi ?
Bang Radio !
Comment parler de solidarité sans évoquer le fléau de la pauvreté au Maroc ? Zakaria, qu'as-tu à nous dire sur ce sujet ?
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pauvreté au Maroc. Le Maroc est classé comme faisant partie des pays en voie de développement. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, 15% de la population marocaine, soit 5 millions de personnes, vivent en situation de pauvreté. 25% de la population, soit près de 8 millions de personnes, vivent au seuil ou au-dessous du seuil de pauvreté. 50% de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté sont considérés comme économiquement vulnérables aux maladies et invalidités, aux intempéries ou à la perte d'un emploi. 40% de la population marocaine font face à des difficultés pour maintenir un mode de vie modeste. 2,5 millions d'enfants ne vont pas à l'école. 83% des femmes en milieu rural sont analphabètes.
Très intéressant. Donc, comme nous pouvons le constater, il y a encore des efforts à fournir concernant cette problématique. Zaïd, tu as interviewé une élève de Terminale ES qui a fait son TPU l'année dernière sur la mendicité à El Jadida. Que t'a-t-elle appris sur son travail ?
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre un peu spéciale. Il y a quelques semaines de cela, j'ai rencontré une élève, actuellement en Terminale ES, Shaima Ahska. Elle a travaillé sur la mendicité. Ici à El Jadida. Après plusieurs semaines, elle a constaté que plusieurs mendiants n'avaient pas les moyens d'avoir une vie moins misérable. Pour connaître leur parcours, elle les a interviewés après avoir pris le temps de la rencontre. Cette lycéenne a passé du temps en compagnie de quelques mendiants, leur apportant aussi un peu d'aide. Couverture, nourriture, soins. Après les avoir abordés pendant une semaine, cette fille a connu un peu plus de leur vie, leur quotidien pour survivre. Beaucoup d'entre elles doivent se débrouiller seules, car elles ont été rejetées par leur propre famille. Après cette expérience très forte, la lycéenne espère trouver des successeurs pour finir sa mission.
Merci Zaïd, et je crois que tout le monde ici est d'accord sur le fait que ce travail est tout simplement formidable et que nous devons tous nous encourager les uns les autres à prendre des initiatives dans ce sens-là. Et maintenant, j'ai le grand honneur d'interviewer Madame Hendricks. Bonjour Madame Hendricks, et
bonjour.
Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous, que veut dire la solidarité ?
Eh bien, bonjour, merci à vous déjà pour cette invitation. L'honneur est partagé, je suis très contente d'être là pour inaugurer cette première émission Web Radio de Charcot. Alors, l'idée de solidarité, pour moi, suppose qu'on est tous dépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas un individu isolé, on appartient tous à un groupe, on appartient à une famille, on appartient à un établissement, on appartient à un pays. Et à partir du moment où on appartient à un groupe, on se doit d'être solidaire dans le groupe. La solidarité, on la rencontre souvent dans la famille quand quelqu'un est en difficulté, mais c'est vrai que dans la société, on doit tous apprendre à être solidaires parce que on a tous, à un moment ou à un autre, besoin des autres, on vit pas seul. On doit se soutenir et on doit être attentif aux autres pour avoir une vie collective qui soit équilibrée et harmonieuse.
Quelle est l'importance des projets solidaires dans l'apprentissage des élèves ?
Mais pour moi, les projets solidaires sont importants parce que ils contribuent de toute façon à notre rôle éducatif. Je vous le dis régulièrement et vos enseignants vous le disent. Vous n'êtes pas seulement ici pour apprendre le français, les maths, l'histoire géo etc. Vous êtes aussi là pour apprendre à vivre ensemble. Alors, vivre ensemble, c'est pas simplement, on va vous dire, il y a des règles, vous avez le droit de faire ci, et vous avez le droit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vivre ensemble, c'est, on est dans un groupe, on interagit, on s'entend, on s'entend pas, on règle les problèmes, et puis on doit forcément être attentif aux autres, parce que la solidarité et les projets solidaires, ils sont là justement pour apprendre à être attentif aux autres. Vous savez, vous écoutez l'actualité, vous voyez que le monde ne va pas toujours très bien. Si les hommes étaient plus attentifs les uns aux autres, il y aurait peut-être moins de conflits et moins de misère. Donc ça doit s'apprendre dans l'école aussi.
Est-ce que les projets solidaires ont un effet sur l'éducation et le comportement des élèves à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement ?
Bien, écoutez, j'espère. J'espère que ça, de toute façon, on fait ça pour ça, hein. Les professeurs qui conduisent ces projets et nous qui réfléchissons avec les enseignants sur l'intérêt des projets qu'on met en place, ils ont bien comme vocation de vous faire grandir en réfléchissant, en vous posant ces questions et l'intérêt, bien sûr, c'est que vous en tiriez quelque chose. Vous savez, c'est un petit peu comme les graines qu'on sème, on voit pas tout de suite la graine sortir de terre et puis au moment où c'est opportun, et ben elle sort de terre et puis elle a profité de ce temps de maturation. Alors peut-être que dans l'immédiat, on n'a pas l'impression que tout d'un coup ça change les choses, mais je pense que dans votre conscience, au fond de vous-même, le fait de participer, ça permet de vous amener à réfléchir et à évoluer ensuite.
Bang Radio.
Comment faire preuve de solidarité envers les plus démunis?
Alors pour moi, il y a plusieurs moyens de faire preuve. Alors vous avez cité l'exemple de Shaima qui avait fait un très très beau travail l'année dernière dans le cadre des TPE avec des camarades. On peut aussi faire preuve de solidarité effectivement financièrement. Vous savez tous, on peut donner de l'argent pour des associations, on peut donner du matériel. Ça c'est une partie et puis c'est nécessaire parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour survivre. C'est souvent ce que font les adultes ou les élèves parfois quand ils donnent des vêtements pour des villages isolés dans l'Atlas ou des choses comme ça. Et puis, on peut le faire aussi au sein de l'établissement, c'est-à-dire que vous connaissez tous des élèves qui sont un peu isolés ou qui ont un souci de famille ou qui sont en difficulté scolaire. Si on est attentif à ces personnes-là, si on les accompagne, eh ben là, on fait preuve de solidarité. Donc ça, c'est important aussi.
En tant qu'adulte et chef d'établissement, à votre avis, comment faire pour que la solidarité soit un élément de la vie quotidienne, quelque chose qui se vit au jour le jour chez les enfants et les personnes en général ?
Eh bien, on revient un petit peu à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut notre rôle éducatif qu'on appelle l'éducation aux valeurs, c'est-à-dire le respect, le principe d'égalité, l'attention à chacun, c'est faire preuve de la solidarité, c'est faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Faire preuve d'empathie, c'est être attentif aux autres, à ce qu'ils ressentent. Et donc, c'est tout le contraire d'être individualiste. On revient à ce que je disais tout au début, on vit dans une société. Si on ne fait passer que son intérêt individuel avant l'intérêt collectif, on est tout à fait au pôle opposé de la solidarité. On est dans l'individualisme et ça mène bien souvent justement à des problèmes importants dans la société à l'échelle nationale ou internationale. Donc il faut être dans un collectif, il faut s'investir dans ce collectif, trouver sa place dans le groupe, dans la société. Et puis voilà, en espérant que vous tous vous comprenez ça, vous l'apprenez, puis quand vous serez adulte, même à un niveau politique, c'est important parce que il y a ce qui se passe dans l'établissement, mais il y a aussi des dirigeants politiques qui doivent avoir cette conscience-là. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'ici, au sein de l'établissement, les actions qui sont menées vous invitent et vous amènent à réfléchir à ça et à prendre conscience que quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'arriver toute seule au bout du chemin, c'est d'aller ensemble plus loin avec les autres. Parce que quand on est seul au bout du chemin en étant arrivé le premier, on est quand même tout seul. Et vous savez bien que vivre seul, c'est pas quelque chose d'agréable et d'intéressant. Vous cherchez tous la compagnie des autres. Donc on a besoin d'être ensemble et il faut y aller ensemble. Voilà, en se soutenant les uns les autres.
Merci madame pour vos éclairages.
Merci à vous.
Bang Radio.
Bienvenue sur
Bang Radio.
La radio de Charcot.
Radio de Charcot.
Bang Radio.
La radio de Charcot.
Bang Radio.
Zeina, tu as assisté à l'exposition de Jean-Baptiste Charcot qui a eu lieu dans notre médiathèque. Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, Nassima, effectivement, en octobre, notre établissement a organisé une exposition à la médiathèque pour rendre hommage à Jean-Baptiste Charcot. Ce célèbre navigateur a été victime d'un naufrage en Antarctique en 1936 à bord du Pourquoi pas. Et ses recherches ont permis de mieux connaître le pôle Nord ainsi que le pôle Sud. L'exposition, fruit d'un travail laborieux qui a duré toute une année scolaire et a présenté les travaux de plusieurs et différentes classes, du primaire au lycée. Parmi tous ces projets, j'en ai retenu quelques-uns, comme Madame Catherine Rivière et ses élèves de petite et moyenne section ont réalisé une maquette des pingouins sur la banquise. Des classes de primaire ont rédigé des poèmes et réalisé des albums sur le réchauffement climatique. Une classe de CM2 a envoyé Momo, un petit chameau en peluche en Antarctique, et a entretenu une correspondance avec les scientifiques de la base Concordia. Les élèves de 6e ont rédigé des contes en arabe et en français sur le chevalier des deux pôles. Les élèves de 5e de l'année dernière ont réalisé des lettres d'une éventuelle correspondance de Jean-Baptiste Charcot que l'on a déposée sur une maquette du Pourquoi pas. Jihan, une élève de première S, a réalisé une maquette sur le réchauffement climatique. Et j'ai pu rencontrer deux élèves de terminale ES, Yassine Harmel et Rita Lamrani, qui m'ont présenté et parlé de leur travail de rédaction sur le fascicule, qui est un compte rendu sur un sujet précis. Et le leur était intitulé « El Jadida à l'époque de Charcot ». Leur travail a été réalisé en 3 mois, mais avec 3 élèves de plus, Aja Rizri, Yasmina Louzi, ainsi que Salwa Moutoufer. Deux professeurs, M. Chapelle d'histoire-géographie et Mme Kandoussi, documentaliste, les ont aidés et soutenus. Enfin, Mme Labeba Santé, professeure de français et d'histoire des arts, et Mme Kandoussi ont réuni tous les travaux des classes et ont installé et décoré la médiathèque. Je tiens à saluer toute l'équipe pédagogique et les élèves qui ont démontré que l'union fait la force et que seul le travail d'équipe est la clé de la réussite. Merci.
Maintenant, nous allons écouter l'interview de Myriam Chédid, mais avant, Ikram va nous faire part de quelques renseignements concernant cette grande dame.
À l'occasion de l'inauguration du Centre de documentation informatique au nom de Myriam Chédid, cette célèbre astronome nous a honorés de sa visite à Charcot. Nous y avons donc vu une opportunité de l'interviewer, en arabe tel qu'en français, en lui posant toutes nos questions sur son voyage en Antarctique, sur sa vie professionnelle actuelle, ainsi que ses projets pour le futur en tant qu'astronome. Nous n'avons pas manqué de lui dire que c'était un modèle aux yeux des hommes, mais encore plus aux yeux des femmes, surtout marocaines. Car il faut savoir que Myriam Chédid est la première astronome à avoir posé le drapeau marocain en Antarctique, et qu'à travers cette expérience, elle a trouvé le courage dont elle avait besoin et la force nécessaire à cette expédition. Nous ne pouvons que remercier et encourager cette femme extraordinaire pour tout ce qu'elle a fait.
Quand j'avais votre âge, je voulais être astronome. Je voulais d'ailleurs être astronome à l'âge de 10 ans. J'ai mon frère qui m'a offert un livre sur les lois de Kepler et tout ça. J'étais très enthousiasmée à savoir comment ça marche, tout ça, toutes ces planètes, toutes ces étoiles et tout ça. Et malheureusement, j'étais à Casablanca, il n'y avait pas d'astronomie comme je vous ai dit tout à l'heure. Les gens me disent, mais c'est quoi ça l'astronomie? Personne ne comprend ce que je voulais vraiment être un jour. Et un jour, par le grand hasard, j'avais exactement votre âge, 13 ans, 14 ans, c'est ça, vous avez ça?
Oui.
Ouais, voilà. Et donc, j'écoutais une mission à la radio qui s'appelait « L'univers en microscope ». Et sur la radio marocaine, tout simplement. Et c'était tourné par un journaliste que je connais pas, je me souviens plus de son nom, et surtout par un artiste peintre, astronome amateur, Albert Pilot, et qui habitait à Rabat. Alors, il parlait de l'astronomie. Je dis, non, mais c'est pas possible. Au Maroc, il y a des gens qui s'intéressent à l'astronomie et tout ça. J'ai écouté ça vraiment comme si c'était les grands dieux qui parlaient de l'univers. J'ai écrit une lettre à ce monsieur, à Albert Pilot, et je lui ai dit, voilà, je suis une jeune marocaine. J'aimerais bien tout simplement venir discuter avec vous l'astronomie au lieu de rester dans mon coin. Il m'a répondu, venez quand vous voulez, moi je fais ça pour la jeunesse marocaine. Et je suis partie le voir, on a discuté, et après il m'a invité dans son émission L'univers en microscope. Et c'était ma première émission radio au Maroc, ça a commencé au Maroc, et j'ai fait plein d'émissions après avec lui, avec Albert Pilot. Et c'était très très enrichissant.
Sous
Le fait de vivre dans le désert d'Atacama au Chili pendant 4 ans, c'était très difficile et très original, parce que c'est le désert le plus aride du monde. Et aussi le fait de faire des expéditions vers le pôle sud, ça c'est extrêmement un challenge, je peux pas dire une difficulté, mais un challenge, parce qu'on sait quand on va, on sait pas si on va revenir un jour. C'est plein de d'aventures, d'arriver jusqu'au bout de notre défi, de challenge et tout ça. Donc je pense que les meilleurs moments dans ma carrière, c'est le désert d'Atacama et les expéditions vers l'Antarctique, parce que c'est très excitant.
Dans une ancienne interview pour France 3, vous témoignez que votre expédition en Antarctique avait été un rude travail, avec une température qui pouvait descendre jusqu'à moins 80 degrés, que vous subissez l'isolement et la sécheresse. Avez-vous pensé à abandonner?
Non, jamais. J'ai voulu aller jusqu'au bout de mon expédition. Comme il disait Napoléon, il faut vraiment énormément de courage pour survivre et peu de courage pour mourir. Donc j'allais jusqu'à la mort, jusqu'au bout de mes rêves.
Vous avez dû travailler 3 fois plus qu'un homme. Pourquoi ?
On peut pas cacher qu'il existe encore du machisme, du sexisme, mais il faut pas non plus que la femme se cache derrière ça et dire non, non, je vais pas pouvoir faire ça parce que je suis une femme. Donc il faut imaginer une fois pour tout que la femme, elle a vraiment ses capacités, faire plein de belles choses dans les sciences, et que l'évolution scientifique est hors question qu'elle avance sans la présence de la femme de toute façon. Et comme ce qu'elle a été déjà depuis longtemps, depuis le 15e siècle, les femmes, elles ont contribué à plusieurs découvertes en astronomie, mais malheureusement, elles étaient cachées par leur mari. Et ça, c'est, je trouvais toujours ça dommage. Par exemple, quand on parle des grandes découvertes scientifiques, on parle toujours de Ptolémée, de Kepler, de Tycho Brahe, de Galilée, mais il n'y a jamais le nom d'une femme qui sort dans toutes ces découvertes. Et récemment, j'ai analysé la situation et j'ai trouvé, par exemple, si il n'y avait pas la sœur de Tycho Brahe, Sophie Brahe, qui a passé énormément de temps à observer le ciel et à faire un catalogue, Kepler serait incapable de décrire les lois de Kepler aujourd'hui. Et donc ce catalogue, on l'a associé à son frère Tycho Brahe. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Un exemple comme ça d'une femme, Marie Kircher, qui a vraiment détecté une comète pendant une nuit quand son mari était en train de dormir. Parce qu'à l'époque, quand on détecte une comète, donc le nom de l'observateur, il est associé à la comète. Et le roi, il a dit hors question qu'une comète, il porte le nom d'une femme. La découverte d'une comète est un exploit très sérieux qu'on peut pas laisser entre les mains d'une femme. Et donc on a associé à cette comète le nom du mari.
Si vous aviez un conseil à nous donner pour accomplir notre rêve, ce serait lequel ?
D'être très positive. Quelle que soit la difficulté, le challenge à relever, rester toujours calme devant la difficulté et surtout d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Si certains parmi vous, ils ont vraiment la chance d'explorer l'univers, qu'ils le font, c'est très important que l'être humain connaisse son origine.
Merci Ikram et Zeyna pour cette interview et surtout merci à Myriam Chedid, cette femme marocaine qui a cru en ses rêves et qui a fait tout son possible pour les réaliser.
Attends, là c'est quoi ?
C'est quoi ? Bingo.
Et maintenant, pour la petite touche d'humour, la cerise sur le gâteau comme on dit, Ali va nous présenter quelques proverbes de son choix.
Bonjour, je vais maintenant vous présenter quelques proverbes. Premier proverbe. Cherchez midi à 14h. Cela veut dire chercher des difficultés là où il n'y en a pas et compliquer les choses à plaisir. Après la pluie, le beau temps. Ce qui veut dire que les satisfactions et la gaieté finissent par remplacer les désagréments et la tristesse. Petite dédicace à notre chère Madame Kandoussi. Attendre que les alouettes tombent toutes rôties dans le bec. Se dit d'un paresseux qui voudrait tout obtenir sans effort. Et pour finir, Les petits ruisseaux font les grandes rivières, ce qui signifie qu'une accumulation de petites choses peuvent constituer à la longue un ensemble important. Plusieurs petites sommes réunies en font une grande.
Merci Ali, et j'avoue que les proverbes ont été bien choisis. Notre émission touche à sa fin. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup aux journalistes, aux techniciens et aussi aux professeurs encadrants.
Bang Radio!
Bienvenue sur
Bang Radio!
La radio de Charcot!
Bang Radio!
La radio de Charcot!
Bang Radio!